Bonjour à tous.
Et donc, vous, au sommaire aujourd'hui, la situation en Israël après la démission du ministre de la Défense.
C'est ça. Irresponsable de provoquer des élections anticipées, rétorquait hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Premier ministre pourtant à une voix de perdre sa majorité à la Knesset après donc la démission du ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Alors, sa politique envers Gaza met-elle en danger l'avenir politique de Netanyahou? On voit ça avec vous. Alain Dikoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du série Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Discours assez grave, hein, ont dit certains commentateurs hier. Ce n'est pas encore l'hécatombe ministérielle de Theresa May ni la situation d'Angela Merkel, mais un ministre en moins, un autre qui doit se décider ce matin. On peut dire que jamais Netanyahou n'avait été autant en difficulté.
Oui, en tous les cas, dans cette législature, oui, je crois que là, en effet, il se trouve dans une situation beaucoup plus délicate. Et pour essayer de s'en sortir, il joue un petit peu à l'évidence la dramatisation en disant que il est irresponsable de provoquer des élections anticipées en agitant le risque que, dans le fond, la droite, avec ses différents alliés, les perde et que la gauche revienne au pouvoir. Mmh. En réalité, c'est un peu une dramatisation, à mon sens, excessive, parce que on n'est pas du tout dans la situation de 1992 à laquelle il a fait allusion et où, en effet, la chute du gouvernement de droite avait conduit à l'arrivée d'Yitzhak Rabin au pouvoir. Aujourd'hui, la gauche dans une situation telle que ça paraît totalement irréaliste d'imaginer qu'elle puisse gagner.
Oui, parce qu'il a donné un avertissement, effectivement, en faisant référence à 92 et 99, où la gauche était revenue au pouvoir. Pour revenir sur la démission d'Avigdor Lieberman, à quoi est-ce qu'elle correspond? C'était juste après la trêve avec le Hamas, on va revenir sur l'événement de Gaza. Mais lui-même, c'est un habitué hein, des démissions. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
Lieberman, à mon avis, est clairement quelqu'un qui est toujours dans un rapport de force et il a estimé que après, je dirais, pas vraiment l'échec, mais disons le sentiment, disons d'échec en effet que pouvait donner l'opération commando israélienne de la semaine dernière à Gaza, il était dans une situation où il pouvait un petit peu marquer des points face au Premier ministre et le faire non plus en agitant mais carrément en démissionnant du jour au lendemain. Mmh. C'est un moyen pour lui et aussi certainement pour Naftali Bennett qui fait partie d'une autre formation politique mais
parce que c'est un ultimatum à Netanyahou.
Oui, exactement. C'est un ultimatum parce que c'est un moyen pour lui, Lieberman, et aussi pour Bennett de rebondir dans une situation où les sondages ne leur donnent pas de score extraordinaire. Donc, essayer de reprendre la main politiquement tordre le bras à Netanyahou.
Pour donner un peu le tableau à nos auditeurs, donc on a avec Avigdor Lieberman et Naftali Bennett, on pourrait dire deux poids lourds de sa coalition, deux poids lourds très à droite. Il a aussi Netanyahou rencontré hier Moshe Kalon, qui est un de ses ministres également, qui n'est pas sorti complètement rassuré. Alors, à quel point est-ce que sa coalition est stabilisée aujourd'hui avant ce vote qu'on dit crucial à la Knesset mercredi?
Non, elle n'est pas stabilisée. Je crois que tout dépendra déjà de ce que Bennett va dire aujourd'hui. Dans l'hypothèse où avec ses députés, il en a quand même 8, il quittait la coalition, Netanyahou n'a plus de majorité. Et il lui serait très très difficile de trouver une majorité alternative. La seule possibilité serait celle du parti Yesh Atid, mais ça paraît très, qui est un parti plutôt centriste, hein, de centre légèrement gauche.
Qui est dans la coalition d'opposition pour l'instant.
Oui, exactement, mais ça paraît très très très, à mon avis, difficile d'imaginer cela. Dans cette hypothèse-là, il n'y a pas d'autre solution que une autodissolution de la Knesset et la convocation d'élections anticipées. Mais ça n'est pas le scénario favori de Netanyahou, c'est évident, en tout cas pas au jour d'aujourd'hui.
Bon, en tout cas, j'ai pu lire que, par exemple, les deux, Moshe Kalon et Naftali Bennett, auraient conclu un accord pour voter contre le gouvernement s'il n'y avait pas eu de solution hier, mais c'était juste un entrefilet. Il y a une deuxième nouvelle là, avec le discours de Netanyahou hier, c'est qu'il prend ce poste de ministre de la Défense qui était à Victor Lieberman. Là aussi, c'est une première de sa part pour un poste qui est un peu clé politiquement en Israël, parce que en général réservé à des militaires, c'est un peu ça.
Non, pas réservé automatiquement, mais c'est vrai que de fait, souvent, le ministère de la Défense a été occupé par des gens qui avaient un passé militaire. On peut penser évidemment à Rabin, on peut penser à Sharon. En fait, non, dans son discours, il y avait deux choses concernant les postes ministériels. À la fois, en effet, ne pas donner ce ministre de la Défense à quelqu'un d'autre, donc le garder pour lui. Mais en revanche, se dessaisir d'un ministère qu'il avait aussi dans son escarcelle depuis les élections de 2015, donc depuis 3 ans, il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères, c'est Netanyahou qui cumulait les postes de ministre des Affaires étrangères et de Premier ministre. Donc ce ministère, en revanche, il veut le redistribuer, donc le donner à quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui aujourd'hui. C'est un moyen pour lui de reprendre la main et peut-être d'éviter justement que la crise aille jusqu'au bout, mais ça n'est pas sûr que ça suffise en réalité pour endiguer les marogés ministériels.
Donc ministre de la Défense, non pas pour jouer un va-tout, mais en quelque sorte pour garder un joker dans les jours à venir.
Oui, c'est ça, garder un joker et surtout éviter de le donner à Bennett, parce que c'était ça, Bennett, qui est donc actuellement ministre de l'Éducation et donc le chef de ce parti nationaliste religieux, avait demandé et même exigé de Netanyahou d'obtenir ce poste pour rester dans la coalition. Et il n'a pas obtenu cela, et donc Netanyahou est sorti avec ce compromis un petit peu, finalement, je garde le ministère de la Défense, mais je vais mettre le ministère des Affaires étrangères, je vais le donner à quelqu'un d'autre, mais qui, on ne sait pas.
Et autre chose qui est apparue avec ces événements à Gaza aussi, c'est une contestation peut-être inédite là des habitants des frontières dans les villes de Sderot, Kerem Shalom ou Ashkelon, qui ont même bloqué des routes en disant sécurité, sécurité. Hier, Benjamin Netanyahou a dit comprendre les inquiétudes de la population. Est-ce que ça va suffire à les tranquilliser ?
Suffire peut-être pas, mais bon.
Parce que ça met une pression quand même sur la coalition.
Ils ont été surpris parce que ce qui était au départ une relativement petite affaire, hein, c'est-à-dire une opération de commando israélienne qui échoue et qui conduit à un échange de feu avec un des responsables du Hamas à Gaza, bon, finalement dérape et pousse les organisations islamistes à tirer plus de 460 roquettes sur le sud, ce qui n'était pas arrivé depuis 2014. Donc dans cette situation-là, bien sûr que les gens du Sud ont été surpris de ce regain de violence qui n'était pas prévu. Bon, l'armée évidemment a réagi, comme ça se fait toujours. Et bon, ils demandent évidemment qu'on puisse revenir au statu quo ante. Et finalement, c'est ce que Netanyahou leur a offert, puisqu'il a très rapidement, via l'Égypte, négocié un cessez-le-feu pour mettre fin à tout cela, et depuis maintenant presque une semaine, le calme est revenu, mais paradoxalement, c'est finalement le fait qu'il ait négocié qui lui est reproché par les partis, en partie par Lieberman en particulier, qui a prétexté cela pour quitter le gouvernement, en l'accusant en gros d'être trop souple, de ne pas être assez dur vis-à-vis du Hamas, et finalement d'avoir indirectement négocié avec lui.
Et pour au départ, une opération d'espionnage qui avait mal tourné il y a une grosse semaine maintenant, avec la mort notamment d'un commandant des brigades Al-Qassam. Dernière chose, vous disiez pas de retour de la gauche possible, mais justement dans ces conditions, est-ce que il n'y a pas le terrain qui est déjà préparé pour une intégration plus grande des partis de gauche? On parle notamment de Benny Gantz, alors qu'il n'est pas un travailliste, hein, mais qui pourrait être chef du camp sioniste, c'est-à-dire laïque, et qui lui est un ancien chef d'état-major qui pourrait prendre un certain nombre de sièges s'il se présentait.
Oui, c'est vrai que peut-être, en effet, un nouveau parti pourrait-il apparaître, dirigé par un ancien chef d'état-major, donc qui répond au nom de Benny Gantz, comme vous l'avez dit. Mais si ce parti se consolidait, ce que nous ne savons pas encore vraiment aujourd'hui, a priori, oui, les sondages lui donnent une dizaine de sièges, mais une partie de ces sièges, il risque de les prendre au parti travailliste tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, globalement, en termes de volume, ça ne va pas beaucoup augmenter. Le poids de la gauche ou du centre-gauche, ça risque, si en tous les cas cette option Gantz se confirmait, de conduire à un émiettement encore plus grand de tout ce qui peut rester du camp de la gauche et du centre-gauche, et finalement ça n'handicaperait en rien la droite israélienne qui est solidement au pouvoir depuis maintenant une bonne quinzaine d'années.
Une bonne quinzaine d'années. Merci en tout cas Alain Dikoff pour aujourd'hui. On suivra aujourd'hui les déclarations de Naftali Bennett et puis le vote à la Knesset mercredi. Merci beaucoup Alain Dikoff, directeur du CERI Sciences Po. Et puis j'indique qu'à 7h, vous retrouvez aussi ce sujet dans la correspondance de Marie Semelin dans le journal de la rédaction.